Vous écoutez, on lit pour vous.
Ni la faute des femmes, ni celle des jeunes. Un texte de Francis Vaille, paru le 24 mai 2025 dans la presse. C'est la faute des jeunes médecins et des femmes médecins qui travaillent moins. C'est la faute de la rémunération trop faible. Pendant des années, on a pensé que ces trois facteurs pouvaient expliquer en partie les problèmes de productivité de notre réseau de la santé. Entre autres mesures, la rémunération des médecins, plus basse qu'ailleurs au Canada il y a 20 ans, a donc été augmentée pour devenir l'une des meilleures. Or, ces trois facteurs ne sont pas la cause, essentiellement, de la diminution du volume de services que reçoivent les Québécois depuis quelques années, selon une étude fouillée. En fait, il y est même démontré que la hausse de la paye des médecins a provoqué une baisse de leur productivité. Autre découverte, l'État ne sait pas vraiment ce que font les médecins durant le quart de leur travail qu'on pourrait appeler un trou noir. L'étude est le fruit du travail de cinq économistes, dont Pierre-Carl Michaud, directeur de la chaire de recherche Jacques Parizeau de HEC Montréal. L'expert Bernard Fortin, frère de Pierre Fortin, fait partie de l'équipe. Les résultats significatifs sont basés sur l'analyse de plus d'un milliard d'actes médicaux sur 13 ans, facturés par les comptables des médecins à la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ. L'étude arrive comme un pavé dans la mare en cette période de négociation entre Québec et les fédérations de médecins. Premier constat. Le volume de services directs offerts aux Québécois par médecin a diminué entre 2011 et 2023 selon les auteurs. Le recul est de 11 % entre 2011 et 2023 selon l'étude. La baisse est plus grande chez les omnipraticiens, 26 % les médecins de famille, que chez les spécialistes, 5 % Qu'est-ce qu'il explique? J'y reviens plus loin. Je veux d'abord vous parler de ce qui ne l'explique pas, ou très peu. D'abord, fait marquant, l'étude démontre que la hausse de la rémunération à l'acte des médecins, l'essentiel de leur paye, n'a pas eu pour effet de hausser leur volume de travail comme on pourrait s'y attendre pour un travailleur normal. Au contraire, elle a eu pour effet de diminuer le volume de service à la population. Plus précisément, une hausse de 10 % de leur rémunération à l'acte s'est traduite par une baisse de 3,9 % du volume d'actes médicaux selon l'étude. Cette diminution peut s'expliquer par le fait qu'au-dessus d'une certaine rémunération, déjà élevée, les médecins ne sont pas incités à travailler davantage, du moins pour les services directs à la population, souvent payés à l'acte. Les médecins pourraient avoir consacré le temps ainsi dégagé à leur famille ou à leurs loisirs, mais aussi à un travail non rémunéré à l'acte, comme du travail en hôpital, de l'enseignement universitaire ou de la recherche, par exemple. Autre constat. La féminisation de la profession est loin d'être la cause principale de cette baisse relative du volume de services, comme on l'a longtemps pensé. La proportion de femmes médecins au Québec est passée de 44 % à 54 % entre 2011 et 2023. Et comme les femmes s'absentent généralement davantage du travail pour des raisons familiales, on a cru que leur présence plus grande dans le réseau avait fait diminuer le volume de services, toute proportion gardée. Or, ce changement dans la composition explique 15 % de la baisse du volume de services environ. Plus encore, les femmes ont moins diminué leur productivité en lien avec la hausse des tarifs que les hommes. Même remarque pour les jeunes médecins, dont on a souvent dit qu'ils ne voulaient pas imiter le rythme de travail effréné des vieux médecins. Selon l'étude, l'âge des médecins explique seulement 9 % de la réduction du volume de services depuis 2011. Bref, la féminisation de la profession, 15 % et son rajeunissement, 9 % n'expliquent que le quart de la baisse du volume de services à l'acte du corps médical. Les principales causes de la baisse, 76 % sont ailleurs. Quelles sont-elles? Bonne question. Les chercheurs ne trouvent pas de réponse précise, mais leur analyse démontre non seulement que le volume de travail des médecins directement liés aux patients a diminué, mais qu'environ le quart de leur temps de travail est inconnu. Ce trou noir a été découvert par les chercheurs en comparant les données du recensement, 46 semaines de travail déclarées par année, à celles de la RAMQ, 35 semaines. Environ une semaine travaillée sur quatre ne serait pas dédiée à des services médicaux rémunérés à l'acte. Les médecins supportent donc vraisemblablement des charges d'activité non cliniques importantes, selon l'étude. L'alourdissement des tâches administratives pourrait en faire partie. Autre trouvaille. Le nombre relatif de médecins payés à l'acte a bel et bien augmenté durant la période pour 100 000 habitants, soit de 19 %, mais cette évolution favorable et semblable au reste du Canada s'efface presque complètement quand on ramène le travail des médecins en équivalent temps plein, qui a stagné entre 2011 et 2023. La diminution de l'intensité de pratique semble donc avoir annulé les gains liés à la formation de nouveaux médecins, disent les auteurs. En bout de piste, de nombreux médecins consacrent une part relativement faible de leur temps à la prestation directe de services médicaux. Les auteurs suggèrent au gouvernement de mieux colliger les informations pour comprendre ce trou noir. Non seulement on pourrait mieux mesurer la performance des médecins, mais on pourrait aussi mieux comprendre la pratique médicale et les moyens de l'améliorer. En se basant sur la rémunération à l'acte, les omnipraticiens qui travaillaient à temps plein ont touché 414 000 $ en 2023 en moyenne, plaçant le Québec au premier rang canadien, après ajustement au coût de la vie. Les spécialistes gagnaient 548 000 $ dans la moyenne canadienne. C'était « Ni la faute des femmes, ni celle des jeunes », un texte de Francis Vaille, paru le 24 mai 2025 dans La Presse.
En juin, je lis Autochtones, Polar et Nouvelles. Quatre suggestions de lecture de la rédaction, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique Je lis Autochtones. 1. L'automne de la disgrâce par Wayne Archerson, édition à lire. Plongé dans la première enquête du journaliste CRI Léo Desroches, obtenant exceptionnellement l'autorisation d'entrer dans la tente d'enquête pour observer la victime d'un meurtre, Desroches découvre qu'il s'agit d'une femme autochtone. Il décide dès lors de lui donner un visage, d'humaniser son histoire et de faire la lumière sur ce qui lui est arrivé. 2. Le Chesterfield Rouge par Wayne Archerson, édition Héliotrope. M est un employé municipal des plus ordinaires. Sa vie prend cependant une drôle de tournure le jour où il tombe sur un sofa Chesterfield rouge contenant un pied. Des chapitres courts et rythmés qui vous tiendront en haleine. 3. Une enquête de Dreadful Water, tome 6, Le cadavre du canyon, par Thomas King, édition à lire. On retrouve l'attachant et, disons-le, assez dépassé enquêteur Dreadful Water dans ce récit qui met en scène une portée de chatons, un canyon, des panneaux géants et un café de quartier. L'humour de Thomas King et son sens de l'intrigue sauront vous garder captivés jusqu'à la fin. 4. Le terre-plein de la destinée, par Louis-Carl Picard-Sioui, édition Anénorak. Retrouvez le personnage unique de Jean-Paul Paul Jean-Pierre, vedette de l'univers de Kitschiké, dans ce court récit. Coincé à inviter la belle Denise à souper et n'ayant rien à manger, Jean-Paul s'initiera à la chasse pour réaliser le repas tant espéré. Nul doute que cette nouvelle expérience ne se déroulera pas tout à fait comme prévu. C'était, en juin, je lis autochtone, polar et nouvelle, quatre suggestions de lecture de la rédaction, parues le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ».
Est-ce que le déménagement du traversier de Rivière-du-Loup nuira au béluga? Un texte d'Alexandre Shields paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. Le gouvernement du Québec déménagera dès 2028 le traversier de Rivière-du-Loup qui fait la navette entre cette ville et Saint-Siméon au port de Gros-Cacouna. Cette décision soulève des questions pour la protection du béluga dans ce secteur critique pour les femelles et les jeunes. Mais le changement de quai pourrait aussi permettre de réduire la pollution sonore à laquelle sont exposés constamment ces cétacés en voie de disparition. Selon les informations rendues publiques par le gouvernement Legault et la Société des traversiers du Québec, STQ, le traversier partira donc du port de Gros-Cacouna d'ici 3 ans en utilisant des installations temporaires. Mais d'ici 2031, il est prévu de construire un nouveau quai à l'intérieur de la zone du port selon des pratiques respectueuses de l'environnement. La STQ précise que le déménagement est nécessaire en raison de l'ensablement constant du secteur de Rivière-du-Loup qui l'oblige à effectuer année après année de coûteux travaux de dragage et de relâchement de sédiments directement dans l'habitat essentiel du béluga, dans une portion du Saint-Laurent qui fera partie de l'expansion du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent prévue en 2025. La Société d'État évoque d'ailleurs une réglementation de plus en plus restrictive de pêche et océan Canada, soit la loi sur les espèces en péril. Celle-ci sert en fait à protéger un secteur qui est essentiel pour les femelles et les jeunes, soit la portion la plus vulnérable de cette population menacée par la pollution sonore et la dégradation de son habitat. Avec le déménagement au port de Gros-Cacouna, la STQ prévoit aussi l'arrivée d'un nouveau navire plus imposant, le NM Sarima 1, qui pourra effectuer le trajet même en période hivernale. À titre de comparaison, le navire actuel, le NM Trans-Saint-Laurent, a effectué 1622 traversées en 2023-2024, mais sans fonctionner en hiver. Qui plus est, au nouveau quai, un dragage d'entretien pourrait être requis, mais exceptionnellement. Le secteur de Gros-Cacouna a toutefois souvent été présenté comme la « pouponnière des bélugas du Saint-Laurent » en raison de la forte présence de femelles accompagnées de très jeunes bélugas à cet endroit. Les femelles en fin de gestation sont aussi reconnues pour fréquenter cette portion de l'estuaire, possiblement pour y retrouver les ressources alimentaires nécessaires afin de compléter leur gestation. Nuisances pour les bélugas? Dans ce contexte, est-ce que le déménagement augmentera les nuisances pour les bélugas qui connaissent déjà une véritable série noire de mortalité depuis plus d'une décennie? Directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREMM, et expert des bélugas depuis plus de 40 ans, Robert Michaud estime que les recherches sur l'espèce pourraient permettre de trouver une solution positive pour ce cétacé emblématique de la fragilité de l'écosystème du Saint-Laurent. En tant que scientifique, je peux dire que le déménagement du traversier pourrait être bénéfique pour les bélugas,
si on adopte une stratégie dynamique de gestion du trajet du traversier, résume-t-il en entrevue au Devoir. Il faut savoir que le traversier qui part de Rivière-du-Loup passe systématiquement au sud de l'île aux Lièvres. Au départ de Gros-Cacouna, la STQ pourrait opter pour ce trajet, mais aussi pour une autre route maritime qui passe au nord de cette île. Les travaux des experts permettent d'ailleurs de documenter de mieux en mieux les secteurs de prédilection pour les bélugas, que ce soit pour l'alimentation, pour le repos ou pour les déplacements de ces animaux grégaires. Il a ainsi été démontré que des femelles sont bien présentes au sud de l'île aux Lièvres dès le printemps, soit dans les dernières semaines de leur gestation. Ce secteur serait potentiellement très important pour leur alimentation. M. Michaud souligne ainsi que l'évitement de cette zone pendant une partie de l'année pourrait réduire les nuisances au cours d'une saison critique, ce qui entraînerait des gains en vue du rétablissement du béluga, qui se trouve aujourd'hui dans une situation inquiétante, avec des mortalités élevées de femelles et de jeunes qui hypothèquent son avenir. Gestion du trajet. Le directeur scientifique du GREMM va plus loin en suggérant d'étudier l'idée de faire une gestion en temps réel du trajet du traversier grâce au déploiement d'hydrophones et au recours aux technologies qui permettent de modéliser la présence et les déplacements des animaux. Ce n'est pas de la science-fiction, affirme Robert Michaud, en soulignant que des chercheurs travaillent sur des projets similaires pour les épaulards de la côte ouest canadienne. Avec ces outils, on pourrait guider la prise de décision. Si, par exemple, il y a des bélugas de chaque côté de l'île aux Lièvres, on pourrait voir s'il s'agit de mâles ou de femelles. S'il y a plus de bélugas au nord, mais que ce sont des mâles, il pourrait être pertinent d'exposer davantage les mâles puisque l'impact sur le rétablissement de la population sera alors moindre que si on expose les femelles avec des jeunes. L'expert souhaite que ces questions soient entendues dans le cadre de l'évaluation environnementale portant sur le déménagement du traversier. La STQ refuse pour sa part de s'avancer sur le trajet que pourrait utiliser le nouveau navire, plus gros et plus rapide. Il est trop tôt pour s'avancer sur les routes maritimes que prendra le traversier et sur l'horaire des traversées, indique-t-on par courriel. Zone d'ombre sur les impacts du dragage pour le béluga. Le gouvernement Legault a autorisé en 2023 la Société des traversiers du Québec, STQ, à draguer et à rejeter des sédiments pendant 10 ans dans un habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent. Il doit aussi prendre sous peu une décision pour un autre programme de dragage, cette fois du côté du port de Gros-Cacouna. Quels sont les impacts du dragage pour le béluga, une espèce vulnérable à la pollution sonore et au rejet de sédiments potentiellement contaminés dans son habitat? À l'heure actuelle, il n'existe aucune étude scientifique permettant d'évaluer les effets de ces opérations de dragage sur cette espèce en voie de disparition. Dans son rapport portant sur le projet de dragage de Gros-Cacouna, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, a d'ailleurs recommandé au gouvernement du Québec et autorités fédérales de réaliser une étude sur les effets du bruit du dragage. Interpellé par le Devoir, ni Québec ni Ottawa n'ont pris l'engagement de réaliser une telle étude. Dans le cas de ces deux projets, la portion des rejets de sédiments se déroule dans une zone qui sera ajoutée au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, dans le cadre du projet d'expansion élaboré pour augmenter la protection du béluga. C'était « Est-ce que le déménagement du traversier de Rivière-du-Loup nuira au béluga », un texte d'Alexandre Shields paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.
Artisane du journalisme en ville comme en région, un texte de Caroline Samihi Esfahani paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des femmes. une information citoyenne et représentative. Trois artisanes de l'information se démarquent du journalisme de masse, souvent qualifié d'impersonnel, pour un rapprochement épistolaire entre voisins, voisines. Ces journalistes, ancrés dans leurs communautés respectives, sont devenus entrepreneurs par vocation, pour préserver le lien social au moyen d'un journalisme à échelle humaine. En Mauricie, Fanny Prince, acéricultrice de cinquième génération, troque trois jours par semaine sa toque de cuisinière contre la double casquette de directrice générale et infographiste du bulletin des Chenaux. Un beau retour aux sources depuis un an, après une pause de 15 ans à se consacrer à l'érablière familiale. Le journal du terroir. Installé dans un cadre champêtre, proche du fleuve Saint-Laurent, le journal qui couvre la municipalité régionale de Comté, MRC, des Chenaux, publie une actualité 100% locale, dans les zones de 5000 habitants, habitantes, jusqu'aux plus petites. On ne parle même pas de ce qui se passe à Trois-Rivières, la grande ville voisine, se réjouit la directrice du mensuel. Depuis ses débuts, au milieu des années 1980, le bulletin résiste à l'extinction des médias et à la transition complète vers le numérique, malgré une baisse de revenus marquée. On n'est pas des dinosaures, mais pourquoi le papier n'aurait-il plus sa place? Pour ajouter du charme au journal, chaque mois, sauf en nous, 10 000 exemplaires sont mis sous presse puis livrés dans les boîtes aux lettres de la MRC. Et ce, en dépit du fait que 101 médias locaux québécois ont mis la clé sous la porte entre 2008 et 2024, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. C'est la familiarité des enjeux, des voix et des visages réunis dans le bulletin qui, pour Fanny Prince, explique la popularité du journal. Pour y parvenir, la petite équipe de 4 employés à mi-temps, dont le journaliste principal est un septuagénaire bientôt retraité, demeure à l'écoute de sa communauté. La directrice tient à ce que son média écrit reste proche de tout le monde, mais pas trop. C'est pourquoi la clarté des textes et l'indépendance du contenu abordé ne sont pas négociables. C'est dans cet esprit qu'elle gère sa fougère et préserve son intégrité éditoriale. Un désert médiatique en ville. Avec le projet de réimplanter des médias locaux dans tous les quartiers montréalais, chaque semaine, l'éditrice et fondatrice de Mon Plateau, Gaëlle Engelbert, s'adresse d'emblée aux abonnés de son infolettre par « Bonjour, chers voisins, voisines ». Son média d'intérêt commun 100% hyperlocal est imbriqué dans un quartier montréalais branché, à deux pas du Mont-Royal. Il a vu le jour, un soir, dans son salon, un peu sur un coup de tête, après mûre réflexion. L'ancienne journaliste de Radio-Canada, curieuse de nature, flânait dans son quartier, enceinte de son second enfant, quand elle a réalisé qu'il manquait une plateforme d'information conviviale. Un média qui, au fil des saisons, la met au diapason de l'actualité dans son coin de paradis. L'entrepreneur, qui a encore du mal à admettre ce statut, s'est alors posé devant son ordinateur pour compiler un bulletin informatif sur le plateau Mont-Royal. Inspirée de médias qu'elle trouvait sympas, elle s'est approprié un style éditorial amical, parfois amusant, mais le fun, qui se lit comme une carte postale des événements récents. Un média local fort a, pour Gaëlle Engelbert, une portée énorme sur une communauté. À la fois distincte des blogs et des médias traditionnels, son infolettre hebdomadaire présente des articles rédigés par son journaliste qui, bien sûr, habite le quartier. Le tout agrémenté de contenus provenant de sources externes à saveur locale seulement. Son projet artisanal qui répondait à un besoin personnel avec la conviction qu'il fasse écho dans le voisinage compte, 4 ans plus tard, 3200 voisins, voisines, abonnés. Un journalisme représentatif. Dans un quartier voisin de Mont-Plateau, à quelques pas du marché Jean-Talon, se trouve l'équipe de La Converse, une publication formée d'une dizaine d'employés, dont la moitié sont des reporters. Malgré cela, on leur a déjà dit qu'elles et ils n'ont pas vraiment l'air de journalistes. Les observatrices et observateurs aguerris n'ont pas tort. La Converse détonne dans le paysage médiatique composé, en 2024 encore, à 75% de journalistes eurodescendants, eurodescendantes, d'après l'Association canadienne des journalistes. Diffuser une information 100% numérique et multiethnique, dont les vécus familiers prévalent sur la proximité géographique d'un journal local. C'est la mission médiatique créée avec les tripes de Leila Savitch, la directrice générale et rédactrice en chef de La Converse. Son élan entrepreneurial lui est venu sans acquis préalable en gestion, mais avec l'expérience douloureuse du racisme en travers de la gorge. Elle est d'origine rome, une communauté des Balkans victime de préjugés à travers le monde. En voyant ses collègues journalistes racisés se heurtant à un plafond de verre retourné aux études, elle était face au dilemme cornélien, quitter le métier ou le pratiquer en dehors du Québec. Il y a 5 ans, elle a décidé de canaliser sa frustration et de devenir l'artisane du changement qu'elle souhaitait voir. Elle a fait le choix délibéré d'impliquer des communautés de cultures diverses devant et derrière le micro des reportages. Ces journalistes sont, pour la plupart, des jeunes désabusés par les médias et qui ne s'y intéressaient pas, qu'elle a formés, ce qui fait sa fierté. Les enjeux que l'on couvre, on les vit, souligne Leila Savitch. Ceci pratique un journalisme de dialogue, et ces récits donnent la parole aux groupes minorisés, fréquemment réduits aux réflexes misérabilistes véhiculés dans la société. Pour ce faire, le média met à contribution l'identité multiculturelle de son personnel, composé de personnes profondément ancrées dans les communautés qu'elles représentent. Cette approche favorise des reportages authentiques et respectueux envers les sources interrogées. Elle vise à éviter les préjugés conscients et inconscients souvent associés aux méthodes impersonnelles de production à la chaîne et à grande échelle du journalisme classique. Tant par le fond que par la forme, la ligne éditoriale de La Converse diverge des canons de l'information généraliste, où déplore Leila Savitch, la place accordée à la diversité des personnes en est une de façade, tandis que les opinions divergentes sont fréquemment remises en question. C'était « Artisane du journalisme, en ville comme en région », un texte de Caroline Samihi Esfahani, paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des femmes.